Vous avez vu le nombre? S'ils continuent comme ça, ils vont être plus nombreux que nous. Hein? Allez, que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps. Voilà, merci bien. Je vais demander à Roger de s'avancer. Alors, je savais depuis hier soir que tu faisais de la louange avec ton instrument, avec tes dons, avec ta voix, avec ton cœur. Je crois beaucoup. Quelque chose qui m'a touché hier, je le dis publiquement parce qu'il nous en a parlé un petit peu, c'est l'écoute. Pour chanter à plusieurs voix, jouer à plusieurs instruments, il faut être à l'écoute de l'autre. Et quand on ne sait pas écouter l'autre, je me pose la question, comment puis-je écouter Dieu que je ne vois pas? Et je ne savais pas aussi, tu pouvais nous apporter quelque chose de particulier de la parole de Dieu, et nous allons prier pour toi. Et en même temps, je vais remercier pour cet argent que nous avons reçu. Seigneur, déjà, je veux te remercier pour cette collecte qui vient de passer. Seigneur, nous comptons sur toi pour que nous soyons empreints de ta sagesse, tous ceux qui ont à toucher à la trésorerie, aux décisions, l'équipe des responsables, les orientations de l'Église, que nous le fassions en toute sagesse, sous ta direction, ô Dieu, toi qui nous as permis d'arriver jusqu'à ce jour, de réaliser jusqu'à ce jour tant de choses avec toi comme guide. Seigneur, je t'apporte aussi Roger pour que tu le bénisses, que tu le renouvelles, que tu l'enrichisses, même pendant ce temps où il prêche, qu'il puisse nous apporter peut-être encore des choses qu'il n'avait pas prévues, mais que toi tu as sur le cœur pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour que chacun de nos cœurs, chacune de nos oreilles s'ouvre à l'entendement de ta parole. Et que nous apprenions à cultiver cette parole dans les temps qui viennent. Amen.
Amen.
Sois béni.
Merci Hervé. C'est Hervé, hein, c'est juste. C'est Jackie, eux, c'est qui Hervé? Ah, il est parti, d'accord. D'accord. Je vais vous impressionner, ben c'est raté là. Voilà, j'ai demandé à David, quand il m'a proposé de venir avec Valérie pour une soirée louange, j'ai demandé à David, il m'a pris de donner un message, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous t'aurez à cœur? Et puis, tu me dis si je me trompe, David, mais c'était plutôt le témoignage, hein, une part de témoignage avec un lien avec la Bible. C'est intéressant de revoir avec ses rétroviseurs sa vie passée, puis de se dire, là, le Seigneur, il est intervenu dans ma vie, et puis de le faire avec l'aide de la parole qui te montre, parce que la Bible, elle est actuelle. La Bible, ce n'est pas quelque chose de passé, c'est quelque chose de très actuel. Et c'est ça que j'aimerais te montrer aujourd'hui, te partager aujourd'hui, comment dans ma vie ça s'est passé. Pour le faire, il faut évidemment que je me présente un peu. C'est pour ça qu'avant, j'ai laissé un peu le flou, parce que je vais le faire maintenant. J'aimerais te montrer ma famille. Je ne sais pas si on les voit, ma famille. Oui, on les voit. Alors là, on était en fait à la visite, en visite dans les îles, qu'est-ce que c'était pour des îles? Bon, je ne sais plus en fait. Roatan, je ne sais pas où c'est Honduras, voilà. Et puis j'ai trois enfants, Johan le premier tout en haut, ensuite Rachel justement qui a acheté des terres en Nicaragua et puis qui cultive du café, du cacao et à qui est arrivé près de plein d'aventures, on a failli la perdre. Et puis notre dernière, c'est Léa qui est actuellement physiothérapeute. On ne dit pas comme ça en France, on dit comment? Ah bon, pardon, alors kiné, voilà, kinésithérapeute, ça? Alors elle fait ça en fait à Lausanne, elle travaille là. Et puis Rachel a décidé, la deuxième enfant, a décidé de faire les études d'infirmière parce qu'elle s'intéresse au tiers-monde. Et en fait, un métier qui est très demandé dans le tiers-monde, c'est infirmière. Ça notamment est sage-femme, d'après ce que j'ai entendu. Ça, c'est très demandé. Et puis Sonia, mon épouse, nous sommes tous deux enseignants. Sonia a fait un papier spécialisé à Lausanne pour faire enseignante spécialisée, donc elle vient dans les classes pour des enfants qui ont des problèmes d'autisme, de toutes sortes de maladies, si vous voulez, mais qui peuvent être quand même socialisés. Alors, elle les accompagne, c'est un gros travail, et c'est pendant les cours, ça se fait dans les classes, je ne sais pas si en France on fait ça maintenant, ça se fait aussi. Voilà, ça commence. Et en Suisse, on le fait aussi. Voilà. Et j'enseigne à des élèves qui ont entre 12 ans et 15 ans. Je crois que ça correspond au collège chez vous. Oui. Et puis voilà. Et puis j'ai parfois des Français qui viennent dans mes classes, qui habitent à la Cure, donc au Rousse. Et puis ils ont le droit, il y a un accord qui a été fait entre la France et la Suisse pour ce village-là. Alors on en a de temps en temps dans nos classes. Ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est en fait, je vais te raconter un événement dans ma vie, mais en tant que croyant, parce que ce qui est intéressant, c'est de parler de Dieu. Et c'est dans ma vie de croyant, j'ai choisi cette photo-là pour t'expliquer quelle espèce je suis, de quelle espèce je suis. On dit dans le canton de Vaud, quand on est dans une famille chrétienne, on est né entre deux pages de Bible. Ça, c'est une expression, je ne sais pas si ça se dit en France, mais chez les Vaudois, ça se dit beaucoup. On est né entre deux pages de Bible, ça veut dire que les parents, les grands-parents, la famille, l'environnement direct est un environnement de lecteurs de Bible, de croyants. Ça, c'est ma sœur aînée, Anne-Claude, qui joue un rôle très important dans ma vie, toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est marrant, elle a toujours eu une année d'avance sur moi dans tout. Et voilà, cette image pour vous expliquer que tout petit garçon, on m'a lu la Bible, on m'a parlé de Dieu. Mais une question terrible m'était posée, je dis terrible parce que je me rappelle toujours, on me demandait, mais est-ce que tu crois en Jésus ? Mais tout petit, je me rappelle cette question. Et tout petit, j'étais gêné par cette question. Et je vais te dire pourquoi. Parce que croire, pour moi, ça ne voulait rien dire. Croire, mais ça veut dire quoi, croire ? Si on m'avait demandé, est-ce que tu sais quelque chose sur Jésus ? Ah, ouais, je sais des choses. Mais croire, je sentais que ce verbe-là cachait quelque chose. Croire, c'est quelque chose d'autre, ce n'est pas savoir. C'est plus que ça, c'est un autre niveau. Alors, pour avoir la paix, je disais oui. C'est une bonne stratégie, quoi. Et puis, comme ça, on me fichait la paix, je rassurais les gens autour de moi. Mais au fond de moi, j'étais profondément gêné. J'ai attendu jusqu'à l'âge de 11 ans. Ben oui, parce qu'à Lausanne, où j'en habitais avec ma maman, mes parents, entre-temps, se sont séparés. Où je vivais avec ma mère et ma sœur, eh bien, dans la chambre, on était dans un immeuble locatif où on entendait tout. Je peux vous dire exactement à quelle heure le voisin du troisième se baignait et qu'est-ce qu'il faisait dans sa baignoire. Donc, c'était tout à fait instructif. Et avec ma sœur, on entendait les murs, on entendait absolument tout d'une chambre à l'autre. Et voilà qu'un jour, enfin une nuit, j'entends ma sœur prier. Ma sœur qui prie. Ça, c'est quelque chose. Parce que jusqu'alors, c'est ma maman qui priait tous les soirs. On se mettait à genoux au canapé du salon. Et puis, ma maman priait pendant 10 minutes, quart d'heure, 20 minutes. C'était interminable. C'est interminable. Elle nous lisait la Bible avec des commentaires. C'était super, pas du tout intéressant. Donc avec ma sœur, c'était la galère, quoi. Soir après soir, on avait ce moment avec Dieu et c'était pénible. Ça va comme ça? Vous ne faites pas peur? C'était ma réalité, Moi, je vous dis qui je suis. Et puis voilà qu'un jour, ma sœur se met à prier toute seule dans sa chambre. Ben, ça, je le sais comme frangin. J'écoute, et puis comme je ne suis pas très, très malin, j'écoute, je colle mon oreille contre le mur. Ma sœur, elle confessait des péchés, quoi. Je me dis, comment est-ce qu'elle peut se mettre à parler à 12 ans à Dieu? Alors, ça fait que dans les jours qui ont suivi, j'ai demandé à ma sœur, mais qu'est-ce qui t'arrive? Puis elle me dit, écoute, j'ai fait une expérience. C'était l'autre soir, dans la nuit. J'ai tout d'un coup compris que Dieu existait. Compris. J'ai tout d'un coup pris conscience que tout ce que je faisais, ça ne servait à rien. Qu'est-ce que j'essayais de faire de bien, je n'arrivais pas, de toute façon. Tous mes efforts étaient inutiles, que ce que je pensais de bien en moi, ce n'était pas suffisant pour plaire à Dieu. Mais, puis là on est au centre de l'Évangile, elle me dit, j'ai l'impression que Dieu m'aime quand même et qu'il me pardonne. Bon, on a tout dit là, je crois qu'on va boire un café, on a fini là. J'ai donné le message, c'est au centre de l'Évangile. Dieu est au-delà, on n'arrive pas à le rejoindre, mais tout d'un coup il se fait connaître à toi, il te dit qu'il t'aime, tu n'y crois pas trop, il te dit mais si, je t'aime. Puis tout d'un coup tu as envie de lui parler, tu as envie de le remercier. Ma sœur, elle avait touché le poc, elle s'était pris entre les gencives là, je veux dire, c'est incroyable. Ben moi ça ne m'était pas arrivé. Puis là je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas. Elle a fait une expérience, moi pas. Alors, moi je sais plein de choses, moi je pense. Et ma sœur, elle sait, mais elle sait autrement. On peut dire maintenant qu'elle croit. Alors que fait un frère cadet quand il vit une expérience traumatisante de cette espèce? C'est-à-dire que ma sœur a de l'avance sur moi, vous avez compris. Qu'elle a une année d'avance, ça je peux accepter, c'est la nature qui le fait comme ça, mais que ma sœur découvre Dieu, puis qu'elle me dit, mais je crois que Dieu existe. C'est casse-tête, quoi. Je lui dis, mais bon, ben vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux, j'ai décidé que j'allais chercher Dieu. Par tous les moyens, qui me parle aussi. Puis là, c'est chaud parce que tu ne sais jamais si c'est de toi ou si c'est de Dieu. Pas simple, pas simple. Première chose, je me suis mis tous les soirs à prier. J'ai fait comme ma mère nous a appris, je me suis mis à genoux au pied de mon lit. Si personne ne savait ça, j'étais dans le noir, hein, dans ma chambre. Puis je le faisais après notre réunion avec la maman, hein, donc ça, c'était, on n'était pas exempt de ces choses-là. Hein. Mais je m'étais bouché double dans ma chambre, je priais à genoux. Et puis j'imaginais, comme j'avais la peine à croire que Dieu m'entendait, je me suis imaginé, j'ai visualisé une grosse oreille dans ma chambre. C'est peut-être pour ça qu'hier aussi je vous ai dit, écoutez, Jésus est là, il est entré dans votre pièce. Vous voyez, c'est ça, on retrouve. Hein. C'était un beau moment hier, un moment de tranquillité devant le Seigneur. Et là, cette grosse oreille, je lui parlais, puis je lui disais, bon, il faut que je te dise ce qui ne va pas chez moi. Il faut un petit peu réfléchir. Ouais, hein, c'est un petit peu, tu vas confesser comme ça, puis tu dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire au curé que j'ai fait de mal aujourd'hui? C'est un sacré challenge, quoi. Intéressant, cette confession. Intéressant. Bon, ben voilà. Et puis, ça ne suffisait pas. Alors, je me suis mis à lire la Bible. Oh, c'était terrible, quoi. Parce que c'est dur, cette Bible, quoi. Tu crois que tu connais les choses. Alors, quand tu vois un passage, tu vois le paralytique, machin, tu dis, mais je connais. Mais tu ne connais rien. Tu lis 15 fois, c'est chaque fois 15 fois différent, de toute façon. Si vraiment tu regardes comme il faut. C'est vrai, non? Alors, tu ne connais rien. Mais en même temps, il y a une forme d'ennui qui dit, mais arrête, ça, tu sais. Vous voyez les voix qui, en nous. Puis, il y a autre chose qui me disait, mais c'est compliqué. Ben, lis le Lévitique, tu vas voir, tu vas te faire plaisir, là. C'est avec ces lois, mais purée, ces lois. Bon, mais il y avait ça. Puis il y a des livres de la Bible qui sont intéressants. Les proverbes, ça ne me touchait pas. Les psaumes, ça ne me touchait pas. J'ai dit, je vais lire ma Bible jusqu'au bout, quoi. Donc, je me suis mis un challenge et puis j'ai résumé. Donc, chaque jour que je lis un chapitre, j'écrivais 3-4 lignes sur le chapitre. Non, mais cinglé, le gars. Donc, c'est juste pour être au contact avec Dieu. Du genre, t'es là, hein? Et puis, c'était ça, ma dynamique. J'en voulais. Eh bien, je vais vous dire, il ne me parlait pas. Il ne me parlait pas. Je continue à lire parce que j'ai une tronche de lard fumée, donc je me suis dit, je continue, hein, on va y arriver. Hein. Alors je continue, et puis la troisième chose que j'ai faite, je me suis dit, bon, j'avais 13, 14, 15 ans, quoi, donc j'étais vraiment dans la crise. Je me suis dit, il y a des choses qui ne sont pas des trucs qui vont bien avec ma foi, avec ma recherche. Alors tout ce qui était pornographie, par exemple, j'ai mis de côté. Bah ouais, il y avait déjà à l'époque, hein. On était déjà des grands à l'époque, hein. Ça me fait toujours rire quand on dit la pornographie, c'est les films, vous savez, c'est 18 ans, c'est pour adultes. Je dis pourquoi? Mais c'est pas être adulte de regarder la pornographie, c'est être malade. Il faut la marquer pour les cinglés, pour les malades. Excusez-moi pour ceux qui sont addicts à ça, mais c'est comme ça. C'est pas bon, c'est trop puissant ce machin-là. Ça te tire en bas. Moi, ça m'a tiré en bas. Je ne pouvais plus voir une fille normalement. Donc j'ai dit ça, il faut que je mette de côté, ça m'a coûté. Et puis il y a eu d'autres choses. J'ai commencé à fréquenter des copains qui ne se bagarraient pas. J'ai fait des choix. On fait des choix quand on cherche Dieu. Mais c'était mes choix. C'était moi comme gars responsable. C'est comme si Dieu il me regardait de haut et disait, hey, continue comme ça. Attention, tu vas te casser la gueule. Vas-y, continue. Ouais, ça va mieux là. Ouais, c'est pas mal. Puis, j'ai envie de lui dire, mais tu descends là, petit coup là. Mais c'est vrai. J'ai autour de moi des gens qui vivaient des choses, moi pas. Frustrant, non? Il y a un rêve qui est terrible. Le cauchemar que je faisais où tu cours comme ça, puis il y a une grosse machine derrière, c'est ces rouleaux compresseurs pour les routes. Puis il arrive, puis toi, tu t'es collé par terre. Toi, puis t'arrives, puis tous les autres à côté de toi, mais casse-toi, mais dépêche-toi, puis cours. Eux, ils peuvent, mais puis moi, je colle. Hein? Puis le truc, il arrive, et tu vas te faire écraser. Ça, c'est un de mes cauchemars. Il y a un psychiatre ici? Pas psychiatre, ben tant pis pour moi. Pour m'expliquer éventuellement. Hein. Alors, c'est aussi l'enlèvement de l'église, tu sais. Ah, l'enlèvement de l'église, là, il y a tout le monde qui part en ballon, comme ça, salut, c'est génial là-haut. Ouais, c'est génial là-haut, ouais. Toi, t'as les deux pieds qui sont attachés par terre. Ben, c'est un petit peu ça, quand même, un petit peu. Et puis, j'ai fréquenté des chrétiens, ben oui, parce que Dieu, il est partout, hein. Je ne veux pas vous dire nannerie, puis vous dire, ben, il est dans les églises, il n'est pas ailleurs. Mais ce n'est pas vrai. Tu sais bien que Dieu est partout. Mais c'est vrai que des fois, il se manifeste un peu plus clairement que suivant où tu te trouves. Je n'ai pas d'exemple à vous donner. Alors, j'ai cherché Dieu où il y a des gens qui cherchaient Dieu. Ben ça, c'est pas con. Hein. Donc, je suis allé dans des milieux où on cherchait Dieu. Il y avait des chrétiens, voilà. Et puis enfin. Je suis dans un groupe de jeunes. Moi, j'étais dans une église qu'on appelle la Vallée de Joux. Ils les connaissent bien. C'est la Vallée des Darbistes. Alors, je suis né dans un milieu d'Arbistes, un milieu très, très fermé, comme ça, très identitaire. Ils ont une grande qualité. Ils lisent beaucoup la Bible. Ils s'intéressent à Dieu. Ils aiment Dieu. Puis, ils ont plein de défauts, mais ça, je garde pour moi. Alors, je suis né dans ce milieu-là. J'ai grandi dans ce milieu-là. Puis voilà qu'à un moment donné, je vais au gymnase et puis je suis dans un groupe des écoles. Puisque je cherchais Dieu, ben, je cherche Dieu là où il y a des gens qui s'intéressent à Dieu. Donc, je vais à ce qu'on appelle les GBE, les groupes bibliques des écoles. Et là, je tombe amoureux d'une fille. Ça aide un peu aussi pour y aller à ce groupe. Et puis, je suis arrivé avec zèle. Et puis là, petit à petit, ce groupe me propose de venir dans un milieu réformé, l'église réformée vaudoise, un certain Guy Chautan, peut-être tu connais. Et puis voilà que Guy Chautan m'accueille dans son groupe de jeunes, on appelle ça des JP, jeunesse paroissiale. Et puis là, ils ont une idée très bizarre. Ils vont en Angleterre faire un camp chez ce qu'ils appellent les pentecôtistes. Je ne savais pas qu'il y avait des chrétiens qui dévissaient les ampoules pendant qu'ils louaient Dieu. J'ai découvert ce milieu-là. Alors pour un darbiste, c'est un choc. Il faut savoir, c'est un choc culturel. Voilà. Puis quand j'arrivais là-bas, les gens... c'est en Angleterre, mais l'anglais, ce n'est pas une langue que j'apprécie. Je la parle mal, je ne la comprends pas bien. Et puis c'est des gens qui parlaient les langues en esprit. Ça ne voulait rien dire. Je vais la faire courte, sinon je vais faire tout le message là-dessus, puis ce n'était pas mon message. Je me convertis là-bas, je rencontre Dieu. Il vient se manifester dans mes émotions. À un moment donné, je crois. Vous comprenez, il y a un lien là. Où je me dis, ok, Dieu existe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je demande le baptême. Et puis, je vais avec des amis au bord du lac à Lausanne et je demande d'être baptisé. J'avais déjà été baptisé enfant. Alors, je n'ai pas dit à mes parents, ce que vous avez fait, c'est ridicule, c'est faux. Je n'ai pas dit ça à mes parents. Il faut honorer son père et sa mère. C'est aussi reconnaître que pour eux, ça avait du sens. Qu'est-ce que je vais aller commencer à faire la théologie avec mon fusil et puis dire aux autres, j'ai compris? Non. Mais ce qui m'a touché le jour du baptême, c'est que j'ai vu un jour un adulte se faire baptiser. Ce qui m'a touché, c'est que l'adulte, il est entré dans l'eau, je me rappelle, de la piscine, et puis il a dit, je meurs avec Christ. Je dis, effectivement, s'il reste dessous 2 minutes, ça va se gâter là. Alors, tout comme s'il dit, c'est ok, c'est, je comprends. Il est dans l'eau. Ce n'est pas les gouttes sur la tête, c'était vraiment dans l'eau. Je meurs avec Christ. Puis il est ressorti en disant, je ressuscite avec Christ. C'est le V de la victoire. Je trouvais très clair. Et là, j'ai dit, je veux vivre ça. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai vécu avec cet homme qui, pour moi, était un champion de la foi. Il est décédé, c'est André Richir. Et puis, j'étais très heureux de pouvoir vivre ce baptême. Voilà. Mais il faut que je vous parle de la crise, parce que c'est ça qui nous intéresse ce matin. Mauvais réveil. Entre-temps, j'ai trouvé une épouse qui croyait en Dieu. On s'est épousé. Elle était catholique, ma femme. Et puis, on a cherché une église qui nous convienne. Donc, j'ai quitté le darbiste. C'était dur. Ma famille n'est pas venue à mon mariage. Donc, mes amis sont éloignés de moi, une partie. Mais je me rendais compte que je devais faire un chemin différent avec Dieu. J'avais ma vie à faire avec Dieu. Et ma femme a été le moyen pour moi de faire ce chemin-là. Sinon, je serais resté un peu dans un certain confort, peut-être. Et puis, on est allé à Nyon, on a choisi une église ensemble, on a élevé nos 3 enfants là-bas. Les choses sont passées pas mal. J'ai développé la louange, j'ai développé un peu des messages pour les groupes de jeunes, pour le catéchisme. Et puis arrive la crise. On a eu 2 crises de couple, une très forte, où j'allais hurler, je me rappelle, dans l'église du village avec une grande clé que j'ouvrais, j'étais seul, pour dire à Dieu, fais quelque chose. J'étais tombé dans un cercle infernal de... Comment est-ce qu'on va dire? Je trouvais notre vie de couple insuffisante, je voulais autre chose. Et j'étais prêt à n'importe quoi, mais il y a quelque chose en moi qui me disait, mais si tu fais n'importe quoi, regarde ton père, regarde tes copains qui lâchent prise. Regarde ceux qui rentrent dans l'adultère, regarde ceux qui... etc. Et finalement, j'avais une 3e solution, c'était le suicide. J'ai eu des pulsions de mort, puis là, je me suis dit, oups. Et je suis allé voir quelqu'un pour prier pour moi. Et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. De nouveau, le velléitaire, vous voyez, celui qui se met en marche. Il dit, non, je ne veux pas faire ça pour ma femme et mes enfants. Puis le gros de la crise a été un peu plus tard, quand ma femme a été appelée au conseil de l'église, et puis je la vois prier devant moi pour un darbiste, c'est un choc, parce que les femmes dans le darbisme, elles n'ont pas cette place-là, elles se taisent, elles écoutent. Puis je vois ma femme tout d'un coup comme ça. Et ça m'a mis en état de choc. Puis là, j'ai compris les musulmans, qui veulent que leur femme se voile pour pas que les autres la regardent. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me disais, les autres hommes la regardent et la convoitent. Vous voyez le moteur? C'est ça mon moteur. Alors je me cachais derrière une théologie pour dire à la femme doit se taire, puis se cacher, puis mettre un voile. Alors si elle met un voile, c'est pour d'autres raisons, mais pas pour cette raison-là, quoi. C'est pour plaire à Dieu. Donc tout mon système était tordu, plein de mensonges, etc. Toujours, mais Seigneur guérit, hein. Toujours. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui c'est ok, quoi. Mais c'est en marche. Mauvais réveil. À un moment donné, je demande à Dieu, est-ce que c'est vraiment ton chemin pour ma femme? Qu'elle soit au conseil. Et puis il me répond oui. C'est incroyable. Vous allez me dire, c'est toi qui as entendu dans ta tête. Non, pas du tout. 2 Thessaloniciens 5, verset 12. C'est un verset qui dit, je me rappelle, je ne me rappelle pas des versets en général, mais celui-là, il est resté croché. C'est marqué, en gros, je traduis en littéralement, c'est en gros, prends soin de ceux que Dieu a mis en responsabilité au-dessus de toi, les anciens. Et Dieu me disait en quelque sorte, Ta femme, j'ai demandé qu'elle soit à l'église, dans le conseil. Alors, ce n'est pas une preuve théologique, ce que je vous dis. C'est une réponse de Dieu à mon problème. Vous voyez? Je ne vous prouve rien du tout, là. C'était pour moi. Ce que j'ai demandé à Dieu de me dire. Je suis allé voir des pasteurs qui pensaient que c'était bien que les femmes enseignent et tout. Ils m'ont convaincu dans ma tête, mais pas dans le cœur. Puis quand c'est venu dans le cœur, là, j'ai eu un choc et j'ai eu un mauvais réveil. Vous savez, psychologiquement, on est bizarrement fait. Mais on a en nous, dans notre inconscient, des trucs et des machins quand ça se réveille chez nous. Gravez-vous. Hein. Et là, quand j'ai dit à Dieu, « Ok, je laisse ma femme au conseil, c'est juste ce que tu veux, je suis bien, je suis en paix. » Deux jours après, je me suis réveillé le matin et je ne croyais plus en Dieu. Mais le choc qui m'est arrivé à ce moment-là, je ne croyais plus en Dieu. Ça veut dire que dans ma tête, je me suis dit, tu sais, ces voix qui me disaient, mais tu t'es inventé Dieu. Culturellement, tu es né dans ce milieu, c'est pour ça que je vous ai montré la photo des deux petits machins tout à l'heure. Je suis né en deux pages de Bible, donc c'est ça, mais qu'est-ce que fait un enfant musulman? Il est né quoi, dans l'islam? Que fait un enfant chez des parents, ce qu'on va dire, athées? Ben, il ne croit pas. Ils n'arrivent pas à lui dire que tout ça, ce sont des âneries. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que tu peux vouloir à un gamin qui est né dans un système? J'étais aussi né dans un système. Est-ce que mon système est mieux qu'un autre? Non. Non. Mon système est un système. Qu'est-ce que tu en fais? Où tu vas avec ça? Donc tu ne peux pas juger les gens, mes élèves, je ne peux pas les juger. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ou ne connaissent pas la vérité, ou je ne sais pas quoi. Tu es où? Où est-ce que tu es maintenant? Donc ça t'impose le respect. Et là, j'étais incapable de reconnecter avec Dieu. Et je suis donc tombé de ce que moi j'appellerais l'aveuglement. Dieu, existes-tu? Et si tu existes, m'aimes-tu vraiment? Et c'était tellement terrible que j'avais trois groupes de prière dans le mois. Je voyais régulièrement des gens. Aux trois groupes, j'ai dit, écoutez, je ne peux plus prier, ce n'est pas cohérent. J'ai en moi une pensée qui me dit que tu t'inventes les trucs. Que tu fais ça parce que tu te dis si Dieu existe, ça me permet d'appréhender la mort. Tu ne seras pas seul de l'autre côté. J'ai peur de la mort, j'ai peur de la solitude. Tu vois, ces peurs qu'on a. C'est ça ma vérité, ce n'est pas autre chose. Et à partir de ça, j'étais en train de me dire peut-être que dans mon cœur d'enfant, je me suis dit, ok, ben, ce Dieu-là qui existerait, ça serait une sécurité. Alors tu te fabriques Dieu. C'est les bouddhistes qui disent ça. C'est pas con. On aime tellement notre ego. On aime tellement notre narcisse, notre moi, qu'on a envie de le prolonger à l'infini, non? On a envie de le garder, le chérir. Pauvre petit ego. Mais ça justifie beaucoup de force, ça. Donc, j'étais dans cet état-là, incapable de reconnecter à Dieu. Puis j'en avais entendu sur Dieu, je peux vous dire. Alors, au désespoir de cause, ça va durer une année. Une année. Et à un moment donné, je recommençais à prier en disant, mais au secours, Seigneur, j'espère que tu existes. Et je disais, si tu existes, voilà ce que j'ai à te demander. C'était ma formule de départ. Si tu m'entends, si tu es là. Deuxième quête, hein, deuxième souffle. Déjà, le petit garçon qui cherchait, je vous rappelle, je n'ai pas de papa à la maison. Hein. Et puis ensuite, le chrétien qui avait perdu son Dieu. J'ai perdu deux fois mon père quand même. Hein. C'est deux papas qui disparaissent l'horizon, là. Mais les choses vont bien se passer, je vous rassure. Est-ce que vous connaissez Grandchamp avec les sœurs de Grandchamp? Qui c'est qui connaît Grandchamp? Ah, ça ne fait pas beaucoup de monde. Alors en deux mots, hein, en deux mots, ce sont des sœurs protestantes qui font de l'accueil. C'est un endroit, on ne dit pas un couvent, mais un endroit qui est un peu on fait des retraites, des beaux bâtiments anciens qui ont été achetés pour ces femmes et qui reçoivent des gens pour faire des retraites. Mais dans le silence, dans le silence. Et là, je décide d'y aller. Je ne suis pas tellement le gars à faire du silence, et j'ai tort. Le silence devant Dieu, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Et je vais là-bas, et on m'attribue la sœur Pascale. Avec des verres de lunettes, on aurait dit des fonds de bouteille, je voyais deux petits points au fond, la caricature, une femme hyper intelligente. J'aime bien les caricatures, c'est pour ça que je dis ça. Elle est tellement chou, cette femme. Elle me reçoit, et il va se passer deux choses. Je vous raconte la deuxième d'abord, et je finirai par la première tout à l'heure. Elle m'écoute, puis elle me dit, vous devriez lire un petit passage de la Bible, c'est peut-être pour vous. Ça, ce n'est pas agressif comme manière de faire. Hein. Ce n'est pas le truc, j'ai quelque chose de la part du Seigneur avec l'écho au fond de la salle, ça revient. Ça n'a rien à voir avec ça. On se calme les gars, on respire par le nez. Hein. Elle me dit, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, moi, ça, c'est comme ça qu'il faut me parler. Hein. Vous saurez tout à l'heure, si vous venez avec moi, un gros coup de machin, de prophétie sur la tête, mollo. Moi, je prends tout au sérieux de la part de Dieu, mais on se calme. Donc, elle arrive vers moi, puis elle me dit, j'ai peut-être quelque chose pour vous. C'était quoi? C'était un texte d'un pasteur qui s'appelle Daniel Bourguet et qui a écrit un petit texte sur Bartimée. Purée, quoi. Je lis ça et je me dis, c'est moi. Ça vous a déjà fait, ça? Quand on lit des fois la Bible comme ça, c'est moi. Mais c'est tellement fort ce qui m'est arrivé là. Alors je vous raconte. Il faut qu'on parle de Bartimée. On fait un petit parallèle entre moi et Bartimée, ça ne vous dérange pas? Une fois la Bible, une fois Roger. Jéricho, juste Jéricho, il paraît que c'est la ville la plus ancienne du monde, dont on a trouvé les traces, d'après Wikipédia. Bon, bon, ça nous fait une belle jambe. Mais à part ça, c'est une ville qui a vraiment existé. Puis Jéricho, on en parle dans la Bible. Jéricho, ce n'est pas Jérusalem, j'y reviens dans quelques secondes à Jérusalem. Jéricho, c'est la ville de l'homme. C'est une forteresse. Et l'homme se fabrique son système et va se défendre. Elle est sur des voies de caravane. Et Jéricho a des murs épais, on le sait, hein, dans l'histoire de Josué. Si tu connais pas bien la Bible, ce n'est pas grave. Dans le livre de Josué, on te parle de cette histoire. Tu as le peuple d'Israël qui est sorti avec Moïse, qui a traversé le désert. Après 40 ans, il traverse le Jourdain et il doit passer par Jéricho. Il faut faire tomber cette ville. Et cette ville résiste à Dieu, on est d'accord? C'est symboliquement la ville, le système humain qui résiste à Dieu. Ça, c'est Jéricho, symboliquement parlant. Mais c'est incroyable parce que cette ville va connaître une destruction d'un ridicule. C'est la défaite historique la plus bête que j'ai jamais entendue. La plus humiliante, mais franchement. Un peuple de gamins, de femmes, de vieillards et d'hommes, bon, il y a quelques soldats quand même, hein, de prêtres qui sont devant, puis qui tournent six fois pendant, c'est-à-dire une fois par jour, six jours. Il y a le septième jour, sept fois autour de la ville, puis qui crie, puis les murs s'écrasent. Non mais c'est comme un soldat, un type super baraqué, le meilleur type avec qui on fait tous les films du monde, parce que c'est le meilleur combattant qui meurt dans son camp d'une diarrhée. Ça va le parallèle là? C'est tout aussi humiliant. C'est le truc qui veut rien dire quoi. Le mec il est prêt pour le combat, boum, ça tombe, c'est fini, t'as perdu. Mais pourquoi t'as perdu? Parce que spirituellement, tu voulais te battre contre Dieu. Et t'es rien devant. Jéricho, c'est rien devant Dieu. Le système humain, il tombe devant Dieu. Et puis, il y a Jésus qui parle de Jéricho. Il dit, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Je répète, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. C'est comme si Jérusalem, mais non, ce n'est pas comme si, Jérusalem est la ville de Dieu. C'est la ville où Dieu a mis son nom, c'est là où tu te tournes pour adorer Dieu. C'est là où il y a le temple, c'est là où il y a l'arche de l'Alliance. Et symboliquement, tu te tournes pour dire, Seigneur, tu m'entends mieux comme ça? Bon, je pense qu'il va rire là, mais enfin il te dit, vas-y, parce que Dieu rit, je pense souvent. Mais vas-y, tourne-toi vers moi, puis parle-moi, comme ça toi tu crois au moins que je t'entends. C'est bien, c'est important. Alors tu pries, tu tournes vers Jérusalem. Jérusalem, c'est Dieu qui a créé l'homme parfaitement, c'est Zachée. Quand Jésus dit à Zachée, je te connais, Zachée ça veut dire celui qui est rendu pur, t'imagines Zachée? Eh bien, l'affreux, l'abominable Zachée. Hein? Eh bien Jésus dit, Zachée, je parle par ton nom, je te connais. Pour moi, je te vois comme celui qui est pur, tu es fils d'Abraham. Parce que Dieu t'a créé parfaitement. Tu es quelque part spirituellement né à Jérusalem. Mais que fait l'homme dans sa vie? Il descend inexorablement à Jéricho. C'est comme si on n'arrivait pas à faire autrement. C'est comme si on avait mis du savon noir sur la piste. Et on descend à Jéricho. Il y en a qui se font casser la gueule avant, en chemin. Hein. Puis il y en a qui arrivent jusqu'en bas, mais en morceaux. Bartimée, par exemple. Il arrive en morceaux. Heureusement qu'on remonte de Jéricho. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus, il va à Jéricho. Mon Seigneur, il va à Jéricho. Il ne va pas rester à Jérusalem parmi les rois et les princes. Oh non, ce n'est pas ce Jésus-là que je connais. Moi, le Jésus que je connais, c'est celui qui descend dans ta poussière, dans ta boue. Alors continuons, je suis pressé de voir la suite. À Jéricho, il va rencontrer un certain Bartimée. Quand Bartimée aura les yeux ouverts, parce que c'est un aveugle qui va recouvrer la vue, quand Bartimée va remonter, je l'ai dit hier dans ma prière, parce que ça m'est revenu très fort hier dans la musique, Bartimée va ouvrir les yeux, voir Jésus, et le suivre, ils vont remonter ensemble. Parce que Jésus, il ne va pas s'arrêter à Jéricho, on est d'accord. Il n'est pas mort à Jéricho, Jésus. Il est mort à Jérusalem. Parce que c'est là que Dieu voulait montrer sa gloire. Quelle est sa gloire? C'est celle de l'homme qui donne sa vie pour les autres. La gloire de Dieu, c'est l'humble, tout humble, qui commence seul le trajet dans la mort, puis qui nous attend de l'autre côté. Ouf, heureusement qu'il est passé avant moi. Je ne sais pas tellement ce que j'aurais pu faire, moi, là-dedans, quoi. Et Jésus a pris le chemin avant toi. Ça, c'est une sacrée espérance, hein. Il a passé d'abord Le voile du temple s'est déchiré, il est rentré dans le Saint des Saints, il est montré auprès de Dieu, puis maintenant Dieu t'accepte comme tu es. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Et Jésus, il a ouvert ce chemin pour que tu puisses toi aussi passer ce chemin. Ouais, moi je crois à ça, puis ça me fait beaucoup de bien. Mon papa, il est prêt de mourir maintenant. Qu'est-ce qui le console maintenant? C'est ça. C'est juste ça qui le console. Il a besoin d'entendre ça et je le comprends. Son dernier mot, j'espère que ce sera Jésus. J'arrive. Alors, de Jérusalem... À Jérusalem, on a rendez-vous. Mais revenons à Jéricho quand même pour voir qui est ce Bartimée. Je trouve un truc très intéressant. J'ai appris que Bartimée, ça veut dire fils de l'honoré, mais ça veut aussi dire fils de l'impur. Ça ne va pas tellement ensemble. C'est deux significations différentes. Dans les interprétations que j'ai trouvées, parce que j'ai dû chercher un peu quand même, fils de l'honoré, mais pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que ce type-là, j'ai trouvé cette image, cette peinture, et je crois que c'est un mendiant en Libye, c'est un tableau, comme ça que je trouvais très parlant. Je me suis dit, ça pourrait être Bartimée. Eh bien, il pourrait être fils de l'honoré d'un père qui a été honoré pour haut fait d'armes, parce que c'est un homme, un grand humaniste, parce que c'est un banquier généreux, je ne sais pas ce que vous voulez. Un type qui a aidé les autres. Ben, il est quand même là, hein? Il en est quand même là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'un père honteux, de hors mariage, un bâtard si tu préfères, un type qui est né de choses honteuses, etc., qui pourrait avoir honte de sa famille. Mais il est quand même là. Il est quand même là. Et puis, dans la Bible, il n'a pas d'âge, Bartimée. Sais-tu que Bartimée, c'est le seul personnage du Nouveau Testament qui a été guéri par Jésus dont on sache le nom? Intéressant. Et ce nom-là, il peut être universel. Il n'a pas d'âge, il pourrait être d'une famille riche ou d'une famille pauvre. Mais qu'est-ce qu'il est? Ben, il est aveugle. Il est aveugle. Et puis l'aveuglement, c'est une sacrée dépendance des autres. Hein. Tu ne vois pas où tu es, tu ne peux pas voir venir les coups, tu ne peux pas être attentif à ce qui t'arrive, tu es dépendant, complètement dépendant. Et il est mendiant, ce qui va souvent avec, parce qu'il va dépendre de la nourriture des autres. Il va se prendre des coups parce qu'il y a aussi les moqueurs et les méchants qui passent. En mendiant, il est tellement vulnérable. Qu'est-ce que tu sais qu'on te met dans la main? Tu es obligé de faire confiance. C'est ça sa vie. Et puis il entend des voix parce qu'il est assis au bord de la route comme ça. Puis les gens passent, il entend des voix et des voix et des voix. Bien, j'aimerais te donner ces symboles qui me parlent ici. On va reprendre ces termes. Quand je te dis que Bartimée, c'est moi, quand je te dis que je suis aveugle, c'est que tu sais, maintenant par exemple, Dieu peut te parler et puis tu ne peux rien comprendre. Tu es d'accord? Ça peut très bien arriver. Tu peux voir quelqu'un qui peut être guéri là, puis pour toi, ce n'est pas Dieu. Il s'est passé cette chose-là intéressante avec ma fille, avec Rachel, la deuxième. Elle nage au bord de la mer, en Corse, l'île d'amour. Elle nage, puis ma fille, elle fait un truc tellement bête. Elle nage les yeux ouverts. Oh, elle est comme ça au bord de l'eau, comme ça, mais tu vas te prendre des trucs dans l'œil quand tu fais ça dans l'eau. Pour comment tu raisonnes, toi? Et ma fille, elle se prend un truc dans l'œil, puis c'est venu se mettre derrière, quoi. Pour ceux à qui c'est arrivé, ils savent que ce n'est pas sympa. Quoi. Un grain de sable dans l'œil derrière. Ça m'est arrivé une fois. Hein. Affreux. Ça dure, puis ça ne s'enlève pas parce qu'il est coincé derrière. Puis ton nerf optique, il bouge toujours. Quand ça m'était arrivé, moi j'avais 13 ans, le soir j'avais deux solutions. Je réfléchis un petit peu quand même. Je me suis dit, soit je prends une cuillère à soupe, j'enlève l'œil, je regarde ce qu'il y a derrière, soit je coupe la tête. J'hésitais un peu, j'hésitais encore. Quoi. Insupportable. C'est insupportable. Et ma fille qui arrive vers moi, qui me dit, papa, j'ai un truc à l'œil. Je dis, ouf, ouf. Alors, masse un petit peu comme ça, masse un petit peu. Puis, attends que ça passe. Bon, elle a fait l'après-midi hein, dans sa tente. Puis, le soir, elle vient avec une boule de billard comme ça, à la place de l'œil. Elle me dit, ça passe pas, papa. Alors, elle se met à table. Et puis, on prie pour le repas. Parce que chez nous, on prie pour le repas, on dit merci à Dieu. Et puis, on était là au camping comme ça. Sonia, Léa devant nous, Rachel à côté. Et je prie. Et là, tout à coup, un truc. C'est comme si Jésus dit. Ben, tu me pries pour le repas, ben, je suis là. Il ne me dit pas toujours comme ça, Jésus. Là, c'était très fort. Il me dit, je suis là. Je dis, ah, t'es là, pouf. Et je mets ma main tout de suite sur l'œil de Rachel. Et je dis, ben, écoute, tant qu'à faire, tu ne veux pas la guérir, là. Alors, c'était une prière bizarre, ça. Merci pour les spaghettis, pour la salade, pour l'écorce, pour le beau temps qui fait ping, et pour ma fille que tu vas guérir. Voilà, c'était ça ma prière. J'ai enlevé ma main et c'était bon. Bon, l'œil n'était pas dégonflé, hein. Elle avait plus mal. Alors elle fait un truc incroyable elle se met contre moi et puis elle pleure, ce qu'elle ne fait jamais Rachel. Puis en face de moi, il y avait ma femme et ma fille qui avaient les deux mâchoires dans la salade et qui ne bougeaient plus. Ça, c'est un peu dessin animé, mais franchement, ce n'était pas loin de ça. Elles étaient atterrées, quoi, parce qu'on ne s'attend pas au miracle. Mais tu sais quoi? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il ne voit pas Dieu là. Il voit le hasard. C'était le moment où tu as eu spontanément l'idée d'être une farfelue, pouf, le moment où on l'a vu mal. Ben ouais, si tu veux, ouais, ben ok. Si ce n'est que pour moi, je ne peux pas dire ben ouais, parce que pour moi, il y a quelque chose qui m'a donné le feu, quoi. Des histoires comme ça, j'en ai plusieurs à te raconter, mais je ne vais pas le faire maintenant, parce que sinon, je vais prendre beaucoup de temps. Alors tu sais, c'est Dieu, c'est maintenant. Mais c'est maintenant, tu ne loues pas le rendez-vous. Si tu ne mets pas ta main sur la tête de ta fille, il ne va rien se passer. Ça tu sais. C'est beau comme Dieu fait les choses. J'aimerais bien qu'il le fasse plus souvent. C'est tellement beau. Je mendie sa parole. Mais non, d'une pipe, j'ai faim. J'ai faim. Parce que ce que me donne le monde, ça ne me nourrit pas. La Bible parle des délices du péché. Alors c'est dégueulasse, tu manges ça, mais ça te rend malade. Tu en as toujours besoin, tu es d'accord? On est inassouvi, la pornographie, c'est un exemple qui est gros comme une maison. Mais il y a d'autres choses, vous savez qu'il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, on est accro. Je mendie sa parole parce que c'est sa parole qui me nourrit. Puis là, j'ai moins de sentiments de faim, je suis simplement bien, quoi. Et j'entends des voix contradictoires. Il y a des voix qui me disent, mais t'es là, mon gars, parce que tu l'as mérité. T'es là parce qu'il y a quelque chose dans ta famille qui a fait que. T'es là, puis tu sais, tu recommences ces fameuses histoires qu'on se raconte toujours. Ben oui, ben j'étais comme ça, quoi. Puis il y a d'autres voix qui disent que c'est un peu plus faible, mais non, Dieu t'aime, pff, arrête. Puis ça discute en moi tout le temps. Mais voilà qu'il y a un événement majeur qui vient. Ben oui, dans les voix, il y a tout coup une voix qui dit, « Oh, Jésus qui passe par là, Yoshua qui passe par là, suivi d'une grande foule. » Ben oui, parce que Jésus fait des miracles, c'est un thaumaturge. Ah, la grande foule. Moi, je me suis dit quand j'étais enfant, que Jésus passe, les gens viennent parce qu'ils l'admirent. Mais non. Arrête. Les gens, ils sont curieux. Regarde Mesmer qui part faire son hypnose. Les gens veulent voir ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. C'est un truc. C'est quoi son machin? On n'est pas forcément des croyants quand on suit Jésus. On est juste des curieux. Puis l'autre fois, quand il a guéri un type qui était paralytique, peut-être qu'il le connaissait. C'était un truc monté. Hein? D'accord? Hey, ton petit rationnel qui fonctionne, là, ça bourrale. Alors ici, il y a Jésus qui passe, mais c'est quand même Jésus dont tout le monde parle. Puis les foules sont de plus en plus grandes, ça parle quand même, ça. Donc Jésus parle. Et là, dans sa tête, à Bartimée, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe qui est assez incroyable. Il se dit, si c'est ce Jésus dont on parle, qui serait le fils de David, le fils de Dieu, celui qui aurait le pouvoir, le Messie qu'on attend d'Israël, le libérateur, si ce serait lui, peut-être qu'il aurait le pouvoir. Mais on dit qu'il fait des miracles. On dit qu'il a guéri des lépreux. J'ai entendu ça, moi, le lépreux. Parce que radio, là-bas, ça marche. Il n'a pas besoin d'Internet à l'époque. Ça tournait déjà. Hein. Donc, le type, pourquoi il se met à gueuler, Jésus, fils de David? Mais parce qu'il a entendu. Croyez quoi? Puis il se dit, c'est peut-être ma chance. Alors là, je te lis un psaume qui me touche. Le psaume 107. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Il les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot. Et il rompit leurs liens. Je relis juste une partie. Ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Qu'est-ce que tu fais quand tu cherches Dieu comme Roger, quand il est petit, ou comme Roger, quand il est en crise? Ben, tu essaies de lui parler, quoi. Tu ne restes pas à bouder, à faire la gueule sur ta chaise. Tu utilises ce que tu sais faire, ben, tu cries. Ça dérange les gens, d'ailleurs, quand ils crient. Alors, il met les formes, hein, et il ne faut pas fâcher le Messie, hein. Fils de David, David, c'est pas rien, c'est le roi d'Israël, hein, c'est la famille de David, la descendance. On va mettre les formes, les amis. Seigneur, sentez-vous bien accueilli chez moi, j'ai préparé. Femme, hein, amène le tapis rouge. Hein? Donc on est dans quelque chose de l'ordre, on soigne. Ben il soigne ici, fils de David. D'ailleurs, il espère secrètement que c'est vraiment ça, parce que si c'est vraiment le fils de David, peut-être qu'il a les clés spirituelles, hein, pour ouvrir les portes puis les yeux. Puis il y a une voix toujours en lui qui dit, tais-toi, arrête. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'écoute? T'es rien. T'es rien, mais regarde-toi. Puis ça recommence. Puis là, il y a un truc qui est génial. On lira le texte après une fois. Moi, j'aime bien finir en lisant le texte biblique. C'est bien. Alors, à un moment donné, il y a le silence. Ben oui, il y a le silence parce que Jésus, il s'arrête. Vous savez ce qui se passe quand Jésus s'arrête? Quand Jésus s'arrête, c'est qu'il va faire quelque chose. Ben, les gens, ils se taisent. Ben, on va regarder. Pousse-toi, les grilles du con, vas-y. Non. On regarde, on veut savoir ce qui se passe. Puis on se met les bas. Il y a des types qui montent sur les arbres. Hein. Et puis on regarde ce qui se passe. Puis on tend l'oreille, parce qu'il va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi le truc? C'est une parole magique. C'est la parole qui fait tomber les gens. Peut-être que si j'ai ces paroles, je pourrais essayer chez moi, ça marchera. Ben, Jésus, chaque fois qu'il fait un miracle, c'est différent. Hein. Celui qui recense tous les miracles de Jésus, c'est casse-pied, hein, parce que c'est jamais la même chose. Puis à un moment donné, Jésus dit, appelez-le. Ah ben ça, appelez-le. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais il sait que c'est pour lui. Il sait que c'est pour lui. Là, il y a dans lui, dans son cœur, quelque chose qui était avant, de l'illusion. J'imagine Dieu, j'espère Dieu, mais je ne sais pas trop. À l'espérance. Il y a en lui quelque chose qui est de l'ordre de la foi vague. Tu sais, ce Dieu dont on t'a parlé depuis que tu es enfant. Oui, tu sais des choses, ce Dieu, tu crois des choses. Puis tous les miracles qu'on t'a racontés, que tu as entendus, que tu as vus. Mais tu ne sais pas. Puis tu hésites encore. Puis là, tout d'un coup, il se dit non. C'est maintenant. Ça, c'est de la conviction, c'est plus rien d'autre. Et puis il y a cet amour flou. Ouais, mais ce Dieu, il est bon. On dit qu'il est bon. Ouais, mais il permet la souffrance. Mais ta gueule, c'est plus ça le sujet maintenant. La souffrance, c'est un problème très important, essentiel, parce qu'on vit dans la souffrance. Mais dépasse ça, puis occupe-toi de Dieu 2 secondes, si tu veux bien. Ok, alors c'est la passion. Il y a le cœur qui met boum boum, et puis on va commencer à aller devant ce Dieu-là. Il fait un truc. Il fait un truc, là. J'ai marqué le manteau lâché. Il fait un truc, Bartimée, qui est incroyable. Il lâche son manteau. Maintenant, il n'y avait plus que ça, le mec. Et son bâton, peut-être, puis son manteau. Il lâche son manteau. Mais tu sais ce que c'est, son manteau? C'est lui. C'est son identité, c'est sa carte d'identité, c'est son odeur, c'est sa protection contre le soleil, contre le froid. Et son manteau, il a pris la forme de son corps. C'est son histoire, non? Il le lâche. Il lâche son identité. Parce que celui qui m'appelle, il a autre chose à me dire. Je vais me lever et partir de là. Allez, laisse tomber. Nudité extérieure, les autres te regardent. Mais je m'en fous. Pense de moi ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui m'appelle, puis qui m'aime, j'ai l'impression que ça va marcher ce coup-ci. Puis c'est marrant la voix, hein. La voix c'est prends courage. Prends courage. C'est fini, vous verrez dans le texte. C'est comme si l'Esprit Saint avait inventé un nouveau moyen de communication à l'époque. Il parle fort par la voix de quelqu'un. Oh, il le fait depuis longtemps, l'Esprit Saint. Et le type fait un truc qu'il faut absolument faire à ce moment-là. Si tu restes assis, il ne va rien se passer. C'est pas sûr qu'il vienne à toi. Appelez-le, ça veut dire faites-le venir vers moi. Alors il se lève, je ne sais pas, mettez-vous en situation, tu t'es là puis tu es aveugle. Ben, il faut qu'on t'aide. Hein. Il est où? Appelez-le, la voix venait de là, là. Tu fais un petit jeu, tu es là. Je ne fais pas, je vais me casser la gueule. Hein. Et puis c'est comme la mer rouge qui s'ouvre, tu sais, puis tu as les murs de chaque côté, les gens qui disent vas-y, c'est pour toi. Et mon gars, c'est ton heure. En route, va vers ton Dieu, il t'appelle. Et puis, cette question impossible, quoi. Quand il arrive devant Jésus, il sent qu'il est là. Mais c'est quoi cette question à 2 balles, quoi? Tu veux que je fasse quoi? Bon, j'aimerais un Mac, mais en gros, quoi, avec double couche, bacon et machin. Moi, ça me fait rire, cette question. Tu veux quoi? Mais c'est tellement important, cette question. Parce que Dieu, quand tu viens vers lui, tu crois quoi? Qui va dire, je vais faire quelque chose pour toi, fils, tu vas voir, t'es mon fils, d'abord je vais t'apprendre des choses, d'abord je t'aime, puis tu fais ton catéchisme, premier niveau, ça te va? Stufe 1, Stufe 2, puis te raconte qui tu es, qui tu es pas, etc., ce qu'il faut faire, de bien. Mais tu, attends, puis après tu vas te convertir, puis un jour tu diras quand t'es fâché contre Dieu, tu vas dire, mais écoute, tu m'as forcé à croire en toi. Non, qu'est-ce que tu veux? Décide, toi, prends ta vie en main, vous comprenez? C'est important cette question. Jésus, il ne te prend pas pour un jouet. Dieu ne te prend pas pour un jouet. Tu n'es pas une marionnette. À chaque moment de ta vie, tu dois choisir. Moi, tout à l'heure, je vais sortir là. Peut-être que je vais convoiter la plus belle sœur d'ici. Puis j'aurai le choix de la convoiter ou de dire non. Mais arrête, t'es con. Mais... C'est un bon exemple, ça va? Ça vous parle, ça? J'en ai d'autres, hein? Ils sont tous figés. Ouais. Je suis un mec, moi, je suis un homme. Je suis un type normal, en plus. Je suis marié, j'aime ma femme. Mais je suis un mec, quand même. Eh ben, à chaque fois, j'ai des choix. Donc, mes élèves qui ont 15 ans, vous croyez quoi? Quand elle s'habille presque en classe. Les modes, c'est on est presque habillé. Alors moi, elle rentre en classe, moi je suis salut, à ta place. J'ai des drôles à vous raconter, mais on va perdre du temps. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Puis là, vous savez ce qu'il va faire? Il va se mettre à poil devant les autres à l'intérieur, parce qu'il va te demander devant tout le monde de le confesser. Et c'est 2 fois nu, non? T'es nu devant les autres, t'es nu dans ton cœur. Tu dis ce que tu as vraiment au fond de toi. Tu dis la vérité ou tu dis le mensonge? Dis la vérité quand Dieu est là. Mais tu sais pourquoi il dit la vérité? Parce qu'il sent une chose qui est incroyable avec Jésus, c'est que Jésus ne juge pas. C'est ça qui est génial. Peut-être dans le « appelez-le », il sentait déjà dans la voix, dans le timbre de la voix, qu'il ne jugeait pas. Puis qu'il lui dit, mais viens comme tu es. Ça ne sert à rien de faire des appuis faciaux et de fort musclé pour venir vers moi. Je ne te veux pas comme ça. Tu ne passes pas la porte de toute façon. Recommence. Tu passes par le petit trou là, par le trou du chat. Il faut maigrir un peu. Ah, le chat, il a déjà passé, moi pas encore. Ben, maigris encore. Donc Dieu, il te parle. Dieu, il te veut là où tu es. C'est ça la grâce. Sinon, ce n'est pas la grâce. C'est de la performance. Et puis, il fait sa confession publique. Et il dit, je veux voir de nouveau. Puis c'est là que j'ai pleuré quand j'ai lu ce texte. Et il dit à Jésus, Rabouni, c'est petit maître, c'est plus fils de David, oh, grand homme qui va arriver, etc. C'est plus ça du tout, les amis, c'est tellement plus beau. C'est quelqu'un déjà que je connais un peu, il ne me juge pas, c'est mon ami, c'est mon papa, c'est mon maître, mais un maître proche de moi, je peux le tutoyer. C'est incroyable, en si peu de temps, le type, ce qu'il a compris. Et il dit, je veux voir de nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'il voyait Dieu avant. Ça, c'est la catégorie des gens qui ont entendu parler de Dieu, qui savaient Dieu avant, en bonne partie, puis qui ont perdu la vue. Donc, c'était bien mon histoire. C'était bien mon histoire. Je veux voir de nouveau encore. Tu sais, si je ne te vois pas, ton visage, ce n'est pas grave, mais si je voyais tes pas, je pourrais te suivre. Puis juste ça, ça me ferait du bien. Celui qui a créé les cieux et la terre, d'une parole, a dit que la lumière soit, ben, il va lui dire que la lumière soit. Va, ta foi t'a guéri, c'est le même, hein, c'est le Christ, l'esprit du Christ qui est en Jésus qui parle. La Bible nous dit que c'est lui qui a fondé le monde, il sait ce qu'il fait. Et la lumière vient, quoi, c'est génial. Et puis là, c'était ma prière de hier soir. La première chose qu'il voit, mais quel bonheur, quoi. Il voit le visage de Jésus qui regarde, qui dit, ça va? Tu viens un peu comme ça, parce qu'il y a la lumière, hein? J'imagine le dialogue. Jésus, il était simple. J'imagine plein de choses géniales, quoi, avec Jésus. Bon, puis grand chant, quoi, il faut quand même qu'on conclue. Pas grand-chose, j'ai dit, il y avait deux histoires. Hein. Ça, c'était la deuxième. La première, c'était simplement que la sœur m'a dit au début, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, parce qu'elle m'a demandé, vous voulez quoi? Je lui ai dit, j'ai une question à vous poser, ma sœur. Est-ce que Dieu existe? Ça, c'est une bonne question, hein, que tu vas voir des sœurs. Puis elle me dit, elle avait de l'humour, elle me dit, je crois que c'est une question pertinente. Je lui ai dit, s'il existe, est-ce qu'il nous aime? Non, mais franchement, t'as le type qui avait pris le poc, quoi. Puis il me dit, vous allez faire ça, vous allez prier un moment dans la petite chapelle en bas, il y a une petite chapelle. Vous allez vous mettre à genoux, vous allez prendre ces petits tabourets, comme ça, vous mettez dessus. Purée, tu tiens pas 10 minutes là-dessus. Hein. Puis moi, je suis souple comme un caillou, donc je me suis mis sur ce machin. Je me suis endormi 5 ou 6 fois. Je me suis mis 2 cierges, parce qu'il fallait brûler des cierges. J'ai failli brûler les cheveux, parce que j'ai pas l'habitude. Tu vas t'as le pfff. Donc, tu te mets derrière, t'es comme ça. Et je vous jure, heureusement qu'il n'y avait pas de caméra là, hein, parce que ça passait, c'était le buzz sur Internet. Donc j'étais là, puis pff, je m'endors, puis je me suis dit, mais si elle m'a dit de me mettre là, c'est qu'il se passe quelque chose. Non, je rigole. Hein. Non, je ne suis pas assez naïf quand même. Mais enfin, elle m'a dit d'être là, je suis là, quoi. Puis je suis à genoux comme ça. Puis au bout de 20 minutes, je te promets, tu te lèves pas quand tu marches. Tu sors à genoux, simplement parce que je ne peux plus déplier les jambes. Donc t'es là, tu rampes, quoi. Alors j'étais là, et là, il y a un cadeau de Dieu qui est fantastique. À un moment donné, je vois l'image de mon grand-papa. Mon grand-papa. Ben, comme je n'ai pas eu de papa, mon papa était absent de la maison pendant des années et des années. Ben, c'est mon grand-papa qui s'occupait de moi. Quelle belle petite enfance j'ai eue grâce à cet homme. Et je le vois comme ça en 3/4, en gros, en noir-blanc, comme un dia, comme on pourrait le mettre là. Puis je vois ça, puis ça ne part pas. Ce n'est pas une petite image furtive comme on a des fois, puis on dit Dieu me parle. Oui, ben, Dieu te parle sûrement. Mais là, c'est beaucoup plus fort. C'est clac, ça s'arrête. Tu peux le dessiner, tu prends ton crayon contre le mur, tu le dessines, ton grand-père. Et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis il me dit juste, ben regarde. Ouais, je regarde. Même si je fais ça, je le vois de toute façon. Donc je regarde, puis il me dit, ben c'est quoi? Puis là, dans mon cœur, je me dis, ben c'est qui m'aime? Ah ouais, il t'aime bien ton grand-père. Hein? Ah, il t'a aimé. Hein? Puis il me dit, quand est-ce qu'il t'a aimé? Réfléchis un petit coup là. Ben, il avait un gros ventre, mon grand-père, donc il me posait sur son gros ventre, puis il avait des oreilles de Bouddha, lui. Il avait des trucs qui descendaient comme ça. C'était tellement drôle. Moi, j'adorais faire un exercice. Je lui prenais les oreilles, puis je traillais comme les vaches, tu sais, tu. Et puis, quand je laissais ça petit, comme ça, je lui traillais l'oreille. C'était un moment, mais jouissif. Et puis, il faisait ouf, il aboyait, puis moi, je partais en courant, etc. C'était... Mais quand il me prenait dans ses bras, qu'il me palpait, moi, j'aime ça, moi, je hug comme ça. Et bien, il me prenait, je sentais la bête, l'animal, quoi, qui m'aimait. Et Dieu me dit là, il me dit, ben là, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. C'est moi Dieu qui suis juste derrière ça. Coucou. Les mains de ton grand-père sont mes mains, là. Ça passe vite, profite, c'est furtif. Regarde cet homme. Chaque fois qu'il t'a aimé, c'est moi qui t'aime. À l'église, chez les darbistes à Morges, Les derbistes, ils chantent comme ça. Oui, il y a une table au milieu de la salle. Les dames sont là, les messieurs sont là. Ça rigole pas. Hein. Et puis, il y a, on va dire, les frères principaux qui sont autour de la table. Puis moi, j'avais le droit d'aller. Je n'étais pas frère principal. J'avais 5 ans, là, 6 ans. Mais j'étais avec mon grand-père qui me prenait avec lui et j'avais le droit d'être assis à côté de lui. Il faisait un truc qui me faisait tellement honte à ce moment-là. De temps en temps, il avait un de ses accès d'amour pour moi. Il me prenait puis il me frottait contre lui. Etc. Comme un ours fait avec je ne sais pas quoi. Puis ça me décoiffait. Puis moi, j'avais passé le matin 3 heures à mettre mes trucs dans les... Parce que j'avais ce problème de, je sais pas, bon voilà, c'est un de mes tocs. Et puis, il me décoiffait, quoi. Il me faisait une mise en pli. Bon, puis moi, j'étais là, frotte. J'étais super. Mais le Seigneur, il m'a montré cette image parce que, un, elle est drôle. Puis deux, il m'aimait. Il me frottait. C'est comme ça. Je disais, tu peux pas encore, si tu m'aimes, arrête de me frotter. Mais je n'osais pas lui dire. C'est tellement chou, quoi. Ça me fait marrer. Et il y avait plein d'histoires comme ça. Puis c'est comme si le Seigneur me disait, après tu veux voir d'autres choses. Alors je voyais ma grand-mère. Puis il y a eu un moment de grâce où je pouvais voir ma femme. Je pouvais voir des amis. Vous savez, il y a une des choses qui me touche le plus, quand je vous dis que Dieu m'aime, c'est quand les gens m'écoutent, mais m'écoutent avec respect. La vraie écoute. L'écoute qui est patiente, qui veut savoir, qui s'intéresse à toi. C'est de l'amour. Il y a Dieu là derrière. Il y a Dieu chaque fois. Je me suis dit, tonnerre de tonnerre, Dieu il est partout. Dieu m'a dit, ben oui. Tu ne savais pas ça? Je suis partout. Je suis en toi, je suis dans l'autre, je suis au-delà, mais je suis aussi dans l'autre. Ben, ça va te faire respecter un peu les autres, ça. Ça va t'aider à aller vers l'autre que tu n'aimes pas. Pas seulement les croyants que j'aime pas. Il y en a que j'aime pas. Il y en a qui ne m'aiment pas non plus. Tu dois faire des efforts. Mais il y a aussi les non-croyants. Ah ben celui-là, de toute façon, ce n'est pas ma catégorie. Mais arrête, tais-toi. Il y a Dieu en lui. Important. Pour moi, important. Allez, on a fini là. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Quelle belle histoire. Alors, dans le livre de Job, il y a ce verset que tu connais peut-être. Je ne te connaissais que par ouï dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et puis ce psaume tellement beau pour la conclusion. Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face, et à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Que chacun puisse vivre ça avec Jésus. C'est tellement bon. Amen.